le vin dans la pâte. Cette année 2011 représente également l'année du 200e anniversaire de la naissance de Franz Liszt. Et pour nous parler de ce compositeur de génie né en Allemagne, notre ami Fabrice Renard accueille bien sûr Madame Isabelle Landen.
Classique, pourquoi pas, une émission présentée par Fabrice Renard.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, merci de votre bienveillante fidélité. Soyez les bienvenus à l'écoute des programmes de RCF. Aujourd'hui, nous dédions notre magazine mensuel Classique, pourquoi pas, à tous nos auditeurs mélomanes, certes, mais également aux nombreux étudiants des cours d'histoire de la musique dispensés dans nos conservatoires royaux et académies de musique. Année 2011, année du 200e anniversaire de la naissance de Franz Liszt, compositeur de génie né en Hongrie. Pour nous parler de ce musicien hors du commun, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Madame Isabelle Landen, pianiste, professeur de piano et d'histoire de la musique aux académies Grétry de Liège et de Hanu. Madame Landen, notre éminente spécialiste de la grande histoire de la musique pour RCF, mais oui, en effet, l'an passé, vous nous avez déjà honoré de votre visite pour nous parler de Frédéric Chopin et de Robert Schumann. Pour ces émissions passées et à venir, merci Madame Landen et tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Madame Landen, vous êtes tellement passionnée par l'histoire de l'art musical. Vos séjours à l'étranger le prouvent. Vous revenez d'ailleurs de Weimar, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. J'ai profité des vacances de Pâques pour m'évader en Allemagne et notamment dans la région de Thuringe, à Weimar. Weimar est une petite ville magnifique qui comptait à l'époque de Franz Liszt 17 000 habitants. À notre époque, il faut en compter environ 50 000 de plus. Le centre-ville, à l'architecture vraiment exceptionnelle, est entouré d'immenses parcs et de forêts. Donc c'est un endroit magnifique pour des vacances, pour faire des randonnées notamment. En parcourant les rues de Weimar, j'ai éprouvé vraiment une très très grande émotion, car j'ai eu l'occasion de marcher sur les traces du grand Jean-Sébastien Bach, qui a été organiste de la cour du duc de Weimar, mais aussi sur les traces de Schiller et Goethe, deux éminents poètes que je ne dois plus vous présenter, évidemment. Alors, Franz Liszt a été marqué par la personnalité de Goethe et de son Faust en particulier, auquel il fait allusion dans bon nombre de ses œuvres. Je pense par exemple à Mephistovals, mais aussi à l'œuvre que nous allons écouter dans quelques secondes. Liszt a vécu pendant une très longue période à Weimar, en tant que maître de chapelle de la cour, tout d'abord, pendant une bonne dizaine d'années. Il y a dirigé les plus grands chefs-d'œuvre de ses contemporains, je pense notamment aux opéras de Richard Wagner. Et ensuite, une deuxième période, en effet, pendant les 15 dernières années de son existence, il avait acheté une magnifique petite maison à l'entrée de la ville, qui est devenue actuellement le musée Franz Liszt. Et c'est ce musée que j'ai eu l'occasion de visiter donc pendant les vacances de Pâques. En fait, il y a trois musées Liszt importants, le musée de Weimar, le musée de Budapest et un autre musée très important également à Bayreuth. Alors, dans la maison de Weimar, Liszt donnait d'importantes masterclass en été. Il a eu énormément de futurs grands virtuoses comme disciples. Et comme premier extrait musical, je voulais vous faire entendre une œuvre qu'il a écrite là-bas, à Weimar, en 1853. C'est une œuvre qui est dédiée à Robert Schumann. Robert Schumann avait auparavant dédié sa fantaisie opus 17 à Franz Liszt, et donc Franz Liszt rend l'appareil à Schumann. Et nous allons écouter cette œuvre par Hélène Grimaud, mais je voudrais avant cela lire un petit extrait par la même occasion, rendre hommage à un personnage qui est très très important dans ma formation musicale, c'est Patrick Doerr. Je vais lire un extrait de son livre intitulé « La musique du bout des doigts ». Patrick Doerr, c'est lui qui m'a posé pour la première fois les doigts sur un clavier. C'est lui qui m'a fait connaître le piano. Et sans lui, je ne serais pas en train de vous parler de Franz Liszt actuellement. Alors, voilà ce qu'il dit à propos de cette sonate en si mineur que nous allons écouter. La sonate est une des œuvres les plus ambitieuses de toute la littérature pianistique. Une œuvre d'une telle ampleur et d'une telle architecture ne pouvait se concevoir que par les immenses moyens pianistiques de Liszt. Œuvre de grande pénétration psychologique, la sonate en si mineur reflète la personnalité de Liszt et peut être interprétée comme une autoconfession. C'est le drame intérieur entre les forces du bien et du mal, à l'image du mythe de Faust. Elle est par conséquent d'une richesse spirituelle et mystique exceptionnel. Voilà qui est très bien dit et nous écoutons donc maintenant Hélène Grimaud.
Franz Liszt est également l'auteur de plusieurs inventions pianistiques au sens général du terme. Vous allez nous en parler avec une légère touche féministe, je pense.
Et oui, Franz Liszt est considéré comme l'inventeur de plusieurs concepts pianistiques qui, au XXIe siècle, nous semblent tout à fait naturels. Premièrement, la notion de récital pour piano seul où l'interprète concocte lui-même son programme. Deuxièmement, l'interprétation par cœur de toutes les œuvres, c'est-à-dire sans partition. Et troisièmement, le fait d'entreprendre de longues et solitaires tournées de concerts à l'étranger. Alors sans vouloir ternir cette image légendaire, je voulais, en tant que femme, faire remarquer que parallèlement à Franz Liszt, Clara Schumann, que j'aime mettre souvent à l'honneur lors de mes concerts, se produisait elle aussi, à la même époque, en tant que virtuose de l'instrument, dans de longs récitals interprétés de mémoire. Jusqu'au soir de sa vie, elle a ébloui les mélomanes de l'Europe entière, et ce, c'est important de le souligner, en mettant 8 enfants au monde. Un peu plus introvertie que son égal masculin, Clara était quelque peu effrayée par la personnalité de Franz Liszt. Alors je vais vous lire un petit écrit de Clara. « Nous avons entendu Liszt », écrit Clara dans son journal. « Il ne peut être comparé à aucun virtuose. Il provoque l'effroi et l'étonnement. Sa passion ne connaît aucune limite. Son esprit est grand. On peut dire de lui son art et sa vie. » Donc c'est un assez joli compliment. Hein. Alors également, un petit extrait de ce que Robert, qui était un grand critique musical, écrit également. Mais là, il s'adresse à Clara en disant « Je n'ai jamais entendu jouer d'une façon aussi hardie, aussi déchaînée. Mais Clara, ce genre n'est pas le mien. Je ne donnerai pas l'art que tu pratiques pour toute la splendeur de son jeu, dans laquelle je distingue une petite part de clinquant. Il est vraiment extraordinaire, mais ne le prends pas comme modèle, ma Clara Wieck. Reste seulement ce que tu es. » Voilà. Et alors, pour faire un petit lien finalement entre la dernière mission qui était consacrée à Robert Schumann et celle-ci qui est consacrée à Franz Liszt, nous allons écouter un Lied, donc un chant en allemand, écrit par Robert Schumann, transcrit par Franz Liszt et paraphrasé avec toute la magie pianistique de Liszt. Alors ce n'est pas n'importe quel Lied, c'est un Lied que Robert a offert comme cadeau de mariage à Clara. Et pour vous plonger dans l'ambiance de ce Lied, je vais vous lire la seconde partie du poème. « Tu es le calme, tu es la paix, tu me viens du ciel. Le fait que tu m'aimes me rend digne de moi-même. Je me suis transfigurée sous ton regard. Tu me hisses amoureusement au-dessus de moi-même, ma bonne étoile, mon moi sublimé. Et nous écoutons maintenant Michael Ponti.
Écoutez RCF et son magazine mensuel classique, pourquoi pas dédié à la grande musique. Aujourd'hui, spécial Franz Liszt, notre invitée, Madame Isabelle Landen. Isabelle Landen qui sera en concert avec la violoniste Frédérique Bozzato le 28 mai prochain à 19h30 au Musée d'art moderne et d'art contemporain. C'est au Parc de la Beauverie numéro 3 à 4020 Liège. Nous revenons à Franz Liszt et on peut dire que l'art de la transcription occupe une place prépondérante chez le maître hongrois, que ce soit au niveau de la transcription originale ou de celle enrichie des multiples éléments de sa toujours très féconde inspiration.
Oui, il est très très important de faire remarquer que sur les 700 numéros d'opus écrits par Liszt, 350 sont des transcriptions, donc la moitié. Elles sont de deux types. Premièrement, ce que nous venons d'écouter, par exemple, les paraphrases. Donc Liszt part du thème original et puis il l'orne de mille et une manières dans un déferlement de traits virtuoses. Donc ça, c'est un premier type. Le second type que nous allons illustrer après au niveau sonore, c'est un type de transcription qui vise à une restitution quasiment intégrale des œuvres, et donc ce sont des œuvres d'une densité jamais égalée jusque-là au piano. Je pense par exemple aux transcriptions des 9 symphonies de Beethoven, mais aussi aux transcriptions des célèbres ouvertures de Wagner. Alors, c'est l'occasion peut-être de parler de la très très grande amitié qui va lier les deux personnages, Liszt et Richard Wagner, pendant toute leur vie. Amitié qui sera en plus doublée d'un lien familial, puisque Wagner va devenir plus tard, mais on en reparlera après, le gendre de Franz Liszt. Alors, nous allons écouter par Gyorgy Shifra un extrait de la transcription de l'ouverture de Tannhäuser.
Thank you.
Franz Liszt et la Hongrie, sa terre natale, c'est une histoire de passion réciproque, je pense.
Et oui, il est impossible de parler de Franz Liszt sans évoquer évidemment la Hongrie, son pays natal. Donc il est né exactement à Doborjan, en Hongrie, qui est actuellement en terre autrichienne et qui s'appelle actuellement Reding. La Hongrie, donc son pays natal, était une sorte de plaque tournante entre l'Orient et l'Occident. Donc sa terre d'origine est un extraordinaire amalgame de populations diverses. Et la Hongrie allait exercer sur Franz Liszt une influence profonde et susciter l'éclosion de quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre. Alors je pense tout de suite, et vous aussi certainement, chers auditeurs, aux fameuses rhapsodies hongroises. Dans ces rhapsodies, il s'inspire d'un instrument typiquement hongrois, je dirais plus largement tzigane d'ailleurs, qu'est le cymbalum. Le cymbalum, c'est un instrument, c'est en quelque sorte l'ancêtre du piano, c'est un instrument avec des cordes tendues sur une planche en bois et des cordes que l'on frappe avec des maillets. Donc il n'y a pas de clavier, c'est un instrument qui demande une très très grande agilité. Et donc cette écriture du cymbalum, il la transcrit vraiment dans ses œuvres pianistiques. Alors nous allons écouter encore actuellement, comme au niveau de l'ouverture de Tannhäuser, le très formidable listien Georgi Csifra dans la 10e rhapsodie hongroise.
Abordons à présent la formation pianistique du maître hongrois Franz Liszt, d'abord son père, pianiste amateur, et puis deux grands noms, Czerny et Salieri, sans oublier de mentionner une rencontre capitale, Paganini.
Oui, Franz, ou plutôt Ferenc Liszt, si on parle en hongrois, a été élevé dans un milieu mélomane. C'est son père, Adam Liszt, qui était comptable à la cour du prince Esterházy, mais aussi excellent pianiste, qui l'initie très très tôt à l'art du piano. Et il repère tout de suite ses dons particuliers pour l'instrument, et ce, dès l'âge de 6 ans. Alors, désirant lui offrir le meilleur enseignement possible, son père l'emmène à Vienne, ville incontournable, où Franz aura deux grands maîtres, Karl Czerny pour le piano et Antonio Salieri, que le grand public connaît à travers le film Amadeus, pour la composition. Alors le jeune prodige du piano part alors pour Paris, voyant s'ouvrir devant lui les portes des salons aristocratiques. Et parmi les premiers introducteurs de Liszt dans ce monde, il convient de citer tout particulièrement Sébastien Érard, célèbre facteur de piano, qui va lui permettre de jouer sur de splendides instruments. Les instruments vraiment dernier cri au niveau des perfectionnements techniques. Je pense par exemple à la technique du double échappement qui permet une répétition très très rapide des touches. Alors, toujours à Paris, se produit chez Liszt un choc musical exceptionnel. À l'âge de 21 ans, il entend un concert donné par Paganini. Il a le même choc, d'ailleurs, que celui qui s'était produit au niveau de Robert Schumann. Mais évidemment, ici, ce phénomène va réussir nettement plus que chez Schumann. Vous vous souvenez, Schumann, on en avait parlé lors de l'émission précédente, s'est abîmé la main parce qu'il avait mal travaillé la technique du piano. Ici, Liszt a décidé qu'il deviendrait le Paganini du piano. Et nous allons écouter tout de suite, par Tamás Vasari, une transcription d'un caprice de Paganini, la fameuse Campanella.
Écoutez Classique, pourquoi pas, une émission coproduite avec les établissements Pema Musique, rue Lérès 62 à 4000 Liège, téléphone 04 343 88 85. Franz Liszt était un grand séducteur et parmi ses nombreuses passions amoureuses, la comtesse Marie d'Agoult. Elle joua un rôle prépondérant au cours de sa vie et lui donna 3 beaux enfants.
Oui, l'année 1834 mêle l'existence de Franz Liszt à celle de Marie d'Agoult, comtesse. De leur rencontre naît un amour qui pendant 10 ans unit deux destinées et les marque vraiment profondément. C'est un amour romantique, hein, vous le savez, en ses explosions de passion, en ses propos enflammés, en ses écrits que conserve une correspondance abondante et révélatrice que je vous recommande vivement de lire. Un amour dont le premier acte est un véritable feu d'artifice, dont le deuxième acte se teinte de quelques ombres et dont le troisième acte enfin laisse apparaître une désaffection recouvrant de cendres glacées un brasier jadis incandescent. Alors, que se passe-t-il au niveau de la rencontre avec Marie d'Agoult et Franz Liszt ? Marie d'Agoult était une femme mariée, elle était Marie... à l'origine Marie de Flavigny, elle avait épousé 9 ans plus tôt le comte d'Agoult. Et Franz Liszt, qui était profondément religieux, profondément catholique, croyant, pratiquant, va transgresser sciemment les commandements de Dieu et de l'Église en entraînant, par amour, Madame d'Agoult à quitter son mari et ses enfants. Des amours de Franz et de Marie vont naître 3 enfants, dont la célèbre Cosima, qui deviendra plus tard, vous le savez, l'épouse de Richard Wagner. Notons au passage que Cosima reproduira le même schéma que son père, en quittant son premier mari, le grand chef d'orchestre Hans von Bülow, pour épouser donc Richard Wagner, dont elle aura elle aussi 3 enfants. Alors, Marie et Franz ont beaucoup, beaucoup voyagé. Et de ces voyages, nous avons conservé une magnifique littérature pianistique qui porte le nom d'années de pèlerinage. Il y a 3 recueils, 3 années en fait. Et nous allons écouter un extrait du premier recueil, la première année, la Suisse. Nous irons au bord d'une source, écouter une musique qui est déjà un petit peu d'inspiration impressionniste, qui annonce avec clairvoyance Debussy. Écoutons Muret Peraia.
après la comtesse Marie d'Agoult, ce fut la princesse de Saint-Wittgenstein qui l'accompagnera avec beaucoup de dévouement jusqu'à la fin de sa vie. Et la dernière grande étape de la vie de Franz Liszt, c'est Rome, la ville éternelle où il reçut les ordres mineurs. Il devint monsieur l'abbé Liszt.
Et oui, donc c'est la légendaire image de l'abbé Liszt. On dit d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, il laisse pour seul héritage sa soutane, quelques chemises et 7 mouchoirs. Et au soir de sa vie, il est quasiment le seul de sa génération, la génération de 1810, à être encore sur Terre. Berlioz est mort, Mendelssohn, Chopin, Schumann aussi, Richard Wagner, son grand ami, est mort en 83. Et à l'annonce du décès de Richard Wagner, Liszt répond calmement « Pourquoi pas, le suivant, ce sera certainement moi ». Et effectivement, il s'éteint 3 ans plus tard et il repose actuellement à Bayreuth, près de son cher ami Richard Wagner. Et pour terminer, nous allons écouter donc celui qui m'a transmis l'amour de la musique, Patrick Doerr, dans un extrait des Très belles funérailles.
Madame Landen, merci. Il est déjà temps de se quitter. Merci pour votre talent vraiment exceptionnel à faire vivre en live la grande histoire de l'art musical par la voix des ondes. Ce n'est qu'un au revoir. On se retrouvera très certainement pour un autre compositeur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Je vous dis déjà au mois prochain. Au revoir, salut.
Au revoir, Fabrice Renard.
Demain,
À l'écoute de la radio chrétienne francophone, nous allons à présent retrouver Ralph Schmeller.
Vous écoutez